Mesdames, messieurs, Star Tour annonce l'arrivée de l'Andorre Express, vol ST-45. Dès que nous aurons complété la préparation du Star Speeder, nous procéderons à l'embarquement. Merci.
Oh, bonjour. Bienvenue dans ce cinquième épisode d'Histoire d'Attraction. Et aujourd'hui...
À qui tu parles ?
Je parlais à cette personne juste à côté.
Oh, salut ! Dis, Ben, tu as bien nos titres d'embarquement Star Tours, hein ?
Oui, oui, ils sont juste ici. Ça va, Séphira ? Tu as l'air nerveuse.
Ça se voit tant que ça ?
Non, mais bon, quand même. Tu sais que les Star Speeders 3000 sont des moyens de transport très sûrs pour traverser la galaxie.
Oui, mais je sais, c'est juste ce qui se passe dans la galaxie qui m'inquiète.
Quoi, l'Empire ? Mais il n'existe plus. Dark Vador, l'Empereur, enfin... Il n'y a plus rien à craindre. La rébellion a gagné. Tu travailles à l'administration de la Nouvelle République, en plus. Tu devrais être la première à être assurée de ça, non ?
Justement, des bruits courent dans l'administration.
Comment ça ?
Il y aurait apparemment des restes de l'Empire. Des armées gérées notamment par des commandants suprêmes. Un nom ressort pas mal, c'est celui d'Enix Deviant. Il aurait pris possession d'une planète artificielle d'habitation, encore en construction pour la transformer en quelque chose qui ressemble plutôt à une. Une troisième étoile de la mort du côté de Coruscant. On ne sait pas quel est l'objectif derrière, mais les forces de la Nouvelle République seraient dessus.
Eh bien, si les forces de la Nouvelle République sont dessus, rien à craindre. Ils ont déjà réussi à détruire deux étoiles de la mort, ils trouveront sûrement un moyen. Bon, je sais que ça n'est pas forcément très rassurant d'apprendre ce genre de rumeurs, mais ça s'arrangera, tu vas voir. Pendant ce temps, tu vas profiter de ce petit voyage à Andorre pour te détendre.
Ouais, tu as raison. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. Ça me fait plaisir de te voir.
Votre attention, s'il vous plaît. Le vol Star Tour ST-45, service non-stop en direction d'Andorre, est maintenant prêt pour embarquement à la porte numéro 1.
Oh bah tiens, justement, c'est à nous.
Yes.
Star Tours n'a pas hésité une seule seconde à profiter de la popularité de la Lune d'Andorre suite à la victoire des rebelles sur ce satellite pour proposer plein de voyages là-bas.
Carrément. Pour la popularité des Ewoks aussi.
D'embarquement, s'il vous plaît.
Voici.
Merci. Je vous souhaite un bon voyage.
Bienvenue à bord. Ici Rex, votre capitaine. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est le premier vol. Et pour moi aussi.
Tu as de quoi t'occuper pendant ce voyage ?
J'ai encore quelques rapports à compléter pour l'administration. Ça me permettra d'être sûr d'arriver à Andorre sans y repenser. Et toi ?
Je pense que je vais en profiter pour me reposer un peu.
Fais de beaux rêves.
Merci. Bon courage à toi.
Tout semble normal pour notre voyage à destination.
Un bon petit somme. Bon, j'imagine que certains d'entre vous se posent peut-être des questions. Dark Vador, Star Speeders... Mais vous l'avez peut-être compris, cet épisode d'Histoire d'Attraction est consacré à Star Tours. Célèbre attraction des parcs Disney, ce simulateur de vol basé sur le thème d'une des sagas cinématographiques les plus iconiques de tous les temps, a une histoire passionnante, que ce soit sur sa création, mais aussi sur ce qu'il veut raconter. Et pour ce faire, je vous propose de remonter quelques décennies en arrière. Nous sommes en 1971. Aux États-Unis, un jeune cinéaste nommé George Lucas sort son premier film, THX 1138. À l'issue de cette réalisation, celui-ci crée la même année son entreprise de production, Lucasfilm, où il pourra développer ses idées de film. Parmi ces dernières, Lucas va concevoir par la suite un petit film de science-fiction. Bon, c'est totalement ironique, il s'agit du célébrissime film Star Wars, ou en français, La Guerre des Étoiles. L'histoire du film prend place, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, dominée à ce moment-là par le très menaçant Empire Galactique. Luke Skywalker, un jeune fermier de la planète Tatooine à la soif d'aventure, ressentant une certaine connexion à une mystérieuse force, se retrouve aux côtés d'une princesse rebelle, Leia Organa, d'Obi-Wan Kenobi, un homme âgé et mystérieux sensible également à la force, ainsi que d'un contrebandier nommé Han Solo, pour détruire les plans de l'Empire dirigé notamment par le seigneur Dark Vador, qui quant à lui est attiré par le côté obscur de la Force. Ce dernier a notamment pour objectif de développer une étoile de la mort, une arme à la forme d'une planète pouvant en détruire d'autres, que la rébellion, régie par la princesse Leia, tente de détruire. Sorti en mai 1977, après une réalisation par George Lucas de plusieurs années, ce film fait l'effet d'une bombe au cinéma et connaît un succès phénoménal. Suite à cela, Lucas décide de poursuivre l'aventure Star Wars à travers une première trilogie, nommée Trilogie Originale, en produisant de nouveaux films qui sont également des blockbusters jusqu'en 1983. C'est alors le début de la saga Star Wars, sûrement la saga de science-fiction la plus populaire de l'histoire du cinéma, qui continuera notamment avec de nouveaux films réalisés par Lucas dans les décennies suivantes. Mais l'univers narratif de Star Wars est si gigantesque, et la communauté des fans si grande, que Lucas sait dès la sortie du premier film qu'il ne peut pas être le seul à raconter toutes les histoires de cette galaxie très lointaine. C'est alors qu'est né l'univers étendu de la saga, un ensemble d'œuvres sous licence Star Wars créées par d'autres auteurs, complétant l'univers proposé par Lucas à travers des romans, bandes dessinées ou encore jeux vidéo. Et si je vous dis tout ça, ça n'est pas vraiment pour rien. Avant de vous expliquer pourquoi, il est temps pour moi de parler un peu d'autre chose, Disney. Au moment de la sortie de la première trilogie Star Wars, ça va peut-être vous étonner, mais la Walt Disney Company n'est pas vraiment au top de sa forme. Et la direction change à plusieurs reprises. À la suite du décès de Walt Disney en 66, et de celui de son frère Roy en 71, qui avait poursuivi la direction de l'entreprise jusqu'alors, Curt Walker, accompagné de Don Tatum, deux employés de longue date qui ont gravi les échelons, reprennent la main de Disney. Les nouveaux dirigeants de l'entreprise se retrouvent face à une certaine difficulté, celle de poursuivre le travail de Walt et de Roy. Le vide laissé par Walt à la suite de sa mort se ressent du côté des créatifs, notamment au niveau de la Walt Enterprise, nommée de nos jours la Walt Disney Imagineering, qui s'occupe de créer les attractions et les zones des parcs Disney. Malgré tout, les membres de WED, plus communément appelés Imagineers, continuent le développement de nombreux projets, notamment deux très importants, le nouveau parc Epcot, situé dans le resort Disney floridien Walt Disney World, mais aussi le premier parc Disney hors des États-Unis, Tokyo Disneyland. La même année de l'ouverture du parc japonais en 83, une nouvelle personne reprend les rênes de la compagnie Disney, et il s'agit de Ron Miller, le gendre de Walt. À ce moment-ci, Tony Baxter, un célèbre imagineur ayant notamment contribué à la conception du célèbre train de la mine Big Thunder Mountain Railroad dont je vous parlais au deuxième épisode, émet l'idée de proposer dans les parcs Disney des attractions aux histoires différentes, plus modernes et générationnelles, particulièrement en adaptant des nouveaux films de science-fiction de la firme, comme les films Tron ou encore Trou Noir. Mais le problème, c'est que ces films n'ont pas été assez impactants à leur sortie au cinéma, et ne sont donc pas des blockbusters. Tony Baxter et Ron Miller décident alors de chercher un film de science-fiction à succès hors des productions Disney, et vous voyez où je veux en venir, ils vont le trouver chez Lucasfilm. La Walt Disney Company propose alors à George Lucas une collaboration afin de créer une attraction Star Wars à Disneyland en Californie. Une idée de projet d'immersion dans la célèbre galaxie très lointaine qui commence notamment à être discutée avec George Lucas dans un ranch de Ron Miller. Lucas semble intrigué par l'idée, et c'est ainsi qu'est né le projet d'attraction qui s'appellera Star Tours. Mais pendant ce temps, la Walt Enterprise se retrouve dans une situation des plus délicates. À l'issue des deux gros projets qu'ont été Epcot et Tokyo Disneyland, la direction de Disney, particulièrement focalisée sur sa production cinématographique, fait grandement ralentir l'activité des créations pour attractions. WED Enterprise, de plus en plus ignoré, n'est plus considéré comme rentable par les décisionnaires de Disney et est menacé de fermer à tout moment. Les innovations des Imagineers sont globalement à l'arrêt. Après une période complexe à la Walt Disney Company, Michael Eisner remplace Ron Miller en 84 en tant que PDG de Disney, accompagné de Frank Wells, directeur des opérations. Et bonne nouvelle pour les Imagineers, l'un des objectifs des deux nouveaux hommes à la tête de la firme est de donner un nouveau souffle et une revalorisation de WED Enterprise, qui s'était clairement retrouvé de côté, le PDG montrant un grand intérêt pour les parcs Disney. Mais alors, qu'en est-il de ce fameux projet Star Tours ? Pas de drame, celui-ci n'est pas jeté à la poubelle. L'idée de Tony Baxter est maintenue, mais pour Michael Eisner, cette attraction semble trop chronophage pour une première collaboration entre Disney et Lucasfilm. Eisner décide alors de commencer par un projet coopératif plus petit, Captain EO. Une attraction présentant un film 3D de science-fiction, réalisé par le célèbre cinéaste Francis Ford Coppola et produit par George Lucas, avec un personnage principal incarné par le très célèbre artiste Michael Jackson. La collaboration entre Disney et Lucasfilm marche très bien pour Captain EO, et le projet de Star Tours peut alors se concrétiser. Il reste encore beaucoup de choses à créer pour cette attraction sur Star Wars. Tony Baxter est accompagné de l'imagineur Tom Fitzgerald, qui devient le scénariste de l'attraction. Avec l'aide et l'approbation de George Lucas, l'idée de mise en scène de l'univers Star Wars dans l'attraction est alors de créer une sorte de spatioport géré par une compagnie de transport spatio-touristique nommée Star Tours. Cette compagnie propose notamment des vols en direction de la lune d'Endor, une lune qui a son importance dans le dernier film de la trilogie, Le Retour du Jedi. Les visiteurs pourraient alors en premier lieu, à travers la file d'attente, découvrir la compagnie Star Tours avec les célèbres robots droïdes de la saga R2-D2 et C-3PO animés par un système robotique qu'on nomme Audio Animatronics dans le jargon des parcs d'attractions. Puis, ils embarqueraient à bord d'un vaisseau Star Tours, le Starspeeder 3000, pour partir vers la lune d'Endor, ce qui serait en réalité un simulateur. À bord du Starspeeder, on retrouve R2-D2 en tant que mécanicien du vaisseau, visible par un petit écran secondaire sur le côté, mais un nouveau personnage Star Wars, spécialement créé pour Star Tours, fait son apparition à l'intérieur de l'appareil, et il s'agit de Rex. Droïde de modèle RX, il est le pilote un peu maladroit qui accompagne les visiteurs dans l'aventure. Pour le simulateur, Wed Enterprise souhaite innover et pousser l'aspect de cinéma dynamique plus loin. Afin de résoudre le problème d'immersion à travers un Starspeeder, les imagineurs de Disney pensent aux simulateurs de vol utilisés par les pilotes d'avion. Ces simulateurs ont la particularité d'être composés d'un habitacle totalement enfermé, avec à l'intérieur un écran simulant une fenêtre donnant vers l'extérieur. Les vérins peuvent donner des sensations de descente, montée, tournant, mais aussi accélération synchronisée avec l'écran. Wed, convaincu que cette technologie serait la plus appropriée, commande un modèle de simulateur à l'entreprise britannique Rediffusion Simulation. Pour Tony Baxter, l'innovation technologique du cinéma dynamique pour Star Tours réside sur son processus de conception. Le problème chez certains cinémas dynamiques, c'est que les mouvements des simulateurs sont créés après la conception du film. Et ça n'est pas forcément une bonne solution, car les mouvements des simulateurs sont restreints. Si le simulateur produit une sensation de grande chute, compliqué de refaire juste après une chute, il faut que le simulateur remonte au préalable. C'est pourquoi, avant la production du film, il faut tout harmoniser. Les Imagineers conçoivent alors un ensemble de documents qui permettent de définir avec précision les différentes séquences du simulateur, avec une description du film répondant aux contraintes des mouvements des vérins, l'activité des effets lumineux dans le Starspeeder, l'utilisation de la musique, ce qu'il se passe sur l'écran secondaire où apparaît notamment R2-D2, mais aussi les mouvements de l'audio animatronique du pilote Rex embarqué dans le simulateur. Tout est pensé au détail près avant de commencer le gros œuvre. Une fois créé, la description du film est envoyée à ILM, Industrial Light and Magic, une entreprise d'effets spéciaux très réputée créée par George Lucas durant la réalisation du premier film Star Wars, qui va globalement s'occuper de la conception du film. Et parmi tous les défis qu'ILM a dû affronter avec notamment les trois premiers films Star Wars, la conception du film de Star Tours fait partie des choses les plus complexes à réaliser pour l'entreprise d'effets spéciaux à cette époque. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, quand on est sur un film normal, même si on a beaucoup d'effets spéciaux, on a l'avantage d'avoir des points de vue qui changent souvent en quelques secondes avec le montage, ce qui peut rendre le travail plus simple. Mais vu que le film de Star Tours simule une fenêtre vers l'univers Star Wars, qui nécessite beaucoup d'effets spéciaux, il est impossible de faire une coupe flagrante en passant d'un point de vue à un autre. L'action se doit d'être continue en une prise de vue unique qui dure plusieurs minutes, tel un plan séquence comme on pourrait l'appeler au cinéma. ILM tente alors une astuce. Une succession de plans longs et particulièrement complexes, à base de modèles réduits et de matte painting, un procédé de décor peint sur une surface plane. Ces plans s'enchaînent grâce à des transitions n'étant pas forcément visibles et qui ont pour but de garder un même point de vue. Après ça, la création de l'attraction peut se concrétiser. Des ajustements sur les mouvements des simulateurs ont lieu et les audio animatroniques se sont installés. Et à la suite de plusieurs années de conception et de construction, Star Tours ouvre officiellement ses portes le 9 janvier 1987 à Disneyland, en Californie. Comme les films Star Wars, le succès de Star Tours est total. Le temps d'attente atteint les 4 heures et à l'occasion, le parc effectue un marathon de 60 heures d'ouverture non-stop. C'est un renouveau pour le parc Disney qui avait du mal à battre de l'aile. Cette attraction signe également une grande réussite et un nouveau souffle pour Wed Enterprise. George Lucas, de bon conseil et ayant eu une direction particulièrement appréciée par les Imagineers, était considéré par ces derniers comme le nouveau Walt Disney, dont la mort laissa pendant longtemps un manque de direction créative chez Walt. C'est alors le début d'une collaboration entre Disney et Lucasfilm qui devient de plus en plus forte. Star Tours, devenant une attraction iconique, est clonée dans de nombreux complexes Disney, notamment à Disneyland Paris. À partir de 2011, à la suite d'une nouvelle trilogie, les différents Star Tours du monde changent progressivement pour une nouvelle version, Star Tours, l'aventure continue. L'idée de base reste la même, mais cette fois-ci, de nombreuses destinations sont proposées, de nouvelles apparaissent au fil des années, le film est en 3D, Rex est remplacé par C-3PO, et des nouvelles technologies plus récentes sont installées dans l'attraction. Et en 2012, Disney va au-delà de l'attraction en termes de collaboration, et suite à un accord avec George Lucas, rachète Lucasfilm. Mais dans tout ça, vous vous posez peut-être une question que se sont posées de nombreux fans de Star Wars. Où et quand pourrait se situer Star Tours narrativement dans la saga? Eh bien, la réponse n'est pas forcément des plus évidentes. Concernant la dernière version de Star Tours, l'aventure continue, l'attraction ayant aujourd'hui beaucoup de combinaisons de voyages possibles, situées dans plusieurs moments de la saga, difficile de placer vraiment le moment de l'action. On peut surtout dire que Star Tours est une compagnie touristique qui a évolué tout le long de l'histoire de Star Wars. Mais pour la première version de Star Tours, c'est là où ça devient particulièrement intéressant. D'après plusieurs éléments de cette version, l'action se situerait après la première trilogie, à la suite de la victoire des rebelles contre l'Empire. Mais un problème de cohérence apparaît dans l'attraction, la présence d'une étoile de la mort, ce qui n'est au premier abord pas très clair, vu que l'Empire est déchu et que cette arme devrait être détruite. Mais les fans de Star Wars ont voulu mettre les choses au clair, et c'est alors qu'intervient ce dont je parlais il y a quelques minutes, l'univers étendu de Star Wars. Alors, avant de rentrer dans un sujet assez précis et un peu délicat à comprendre, laissez-moi vous apporter quelques indications. Tout d'abord, il faut savoir que l'univers étendu Star Wars est juste gigantesque et particulièrement complexe. Mais les œuvres de cet univers, créées avant le 25 avril 2014, hormis quelques exceptions, ne sont désormais plus considérées comme faisant partie de la trame narrative officielle de Star Wars, qu'on appelle canon. Cela fait suite au rachat par Disney pour faciliter l'écriture des productions Star Wars après cette date. Donc tout ce que je vais dire par la suite se déroule plutôt dans l'univers Star Wars Legends, la partie de l'univers étendu créée avant 2014, qui n'est plus dans la trame officielle de la saga. Car avant 2014, quelques hypothèses narratives ont été émises sur Star Tours, à travers des œuvres, les péripéties qui se passent dans l'attraction, des débats entre fans et quelques affirmations de la part de Lucasfilm. Et on en vient notamment à un moment où pourrait se situer la première version de Star Tours. Celui où je me situe actuellement avec mon ami Zephira, à bord du Star Speeder, bon même si actuellement je suis en train de dormir. Un moment que vous avez commencé à comprendre au début de cet épisode, où la rébellion, après tant d'années de bataille, a enfin gagné contre l'Empire. Mais pendant qu'une nouvelle république s'installe, quelques restes de l'Empire essaient de résister, et un ancien commandant suprême, Enix Deviant, tenterait selon les dires de créer une nouvelle étoile de la mort. Et je crois que c'est maintenant que cette histoire continue.
Ben, réveille-toi!
Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Accroche ta ceinture! Ça se déroule mal! Tu te souviens quand je te parlais d'Enix Deviant?
Ouais.
Bah, je crois qu'on est attrapé par un rayon tracteur d'un de ces destroyers stellaires.
Ah oui, en effet, ça se déroule mal. Et le pilote?
Ah, il est un peu maladroit depuis tout à l'heure.
Et j'ai loupé tout ça en dormant.
Star Tours, que fais-tu ici?
C'est l'escadron rouge de la Nouvelle République? Mais qu'est-ce qu'ils font là?
C'est une zone de combat, c'est restreint.
Oh non, c'est la fameuse nouvelle étoile de la mort, c'est donc vrai? L'escadron rouge est venu pour tenter de la détruire.
Ah, on est touché. R2, il faut réparer le stabilisateur et vite! Dépêche-toi, nous perdons de l'altitude!
Oh non, on est en train de tomber vers l'étoile là!
Ça va bien se passer, ça va aller. C'est réparé.
Moi qui voulais me détendre.
Star Tours, nous partons déposer une bombe dans l'étoile pour la détruire. Nous allons en profiter pour vous escorter afin de vous évacuer. On va passer en droite motte par la tranche méridienne de l'étoile. Suivez-nous.
Chouette! J'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, on y va!
Attends, quoi?
Accroche-toi!
réalisé. Bravo Star Tours, vous êtes libre désormais.
Ouh, et ben quelle aventure!
Cramponnez-vous derrière! Vitesse lumière!
Ça va, Zephira?
Ouais, on peut dire ça. Un début de vacances un peu inattendu. Et les gens qui nous accompagnent, ils vont bien?
Ah oui! Veuillez m'excuser avec cette aventure, j'espère que ça ne vous a pas trop secoué. En tout cas, c'est ainsi que s'achève cet épisode sur Star Tours. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de suivre Histoire d'Attraction sur Instagram ou encore Facebook. Et sur ce...
Mais quand je te dis que notre pilote est maladroit...
Oui, ouais. Sur ce, c'était Benjamin et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'Attraction. Salut!
Rapport de mission de l'Escadron Rouge. Il semblerait que l'étoile de la mort, d'Enix Déviant, soit factice. Une diversion pour voler des navires de la Nouvelle République. Fin de transmission.